9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Je vais vous faire une confidence, il y a chez moi au bord de la mer une bibliothèque remplie à ras-bord d'ouvrages, de revues, de toutes sortes de choses sur Versailles, à commencer par la très bonne, excellente RHV, la revue d'histoire de Versailles, qui a été remplacée, si je puis dire, depuis maintenant plusieurs décennies par une très remarquable revue éditée par les Amis de Versailles et qui s'appelle Versalia. C'était, je sais, la lecture préférée d'André Damien, à qui je me suis permis de dédier toute cette semaine spéciale. André Damien, grand-maire de Versailles, grand avocat et grand juriste, bien sûr. Et puis surtout, c'était un érudit, un homme truculent, drôle, une personne qui nous manque beaucoup. Il nous a quittés il y a quelques semaines seulement. Il y a dans cette bibliothèque énormément de petits trésors. Vous savez, si l'on me demandait de choisir parmi tout ça, je ne sais pas du tout ce que je choisirais a priori. Ce serait très difficile de faire le tri et d'emporter un de ces ouvrages sur une île déserte. Je me dis peut-être que je choisirais quand même le grand gros ouvrage sur Versailles, celui de Pierre Verlet qui raconte toute l'histoire du château. Le problème, c'est que dans le Verlet, on ne parle que du château et de rien d'autre. J'aurais aimé peut-être emporter aussi le tout premier livre que j'ai eu sur Versailles, que m'avait offert ma mère quand j'avais 7 ans, qui était une édition Fernand Nathan, assez extraordinaire, avec, vous savez, ce parfum, ces effluves très particuliers d'encre chancille qui, pour moi, restera définitivement et jusqu'à ma mort, sans doute, associé au nom même de Versailles. Mais ce serait faire une trop grande part à mes nostalgies d'enfance. Non, finalement, si je devais partir avec un livre sur Versailles, je partirais avec un assez petit livre qui est un album de format carré qui a été publié aux éditions Sun en 1958 et qui s'appelle « Versailles que j'aime ». Avec des photos de Robert Descharnes, qui était le grand ami de Salvador Dali, avec une préface de l'académicien Pierre Gaxot et avec un texte extraordinaire de Roger Nimier, le chef de file des Hussards. Il y avait d'ailleurs aussi chez les Hussards un certain Jacques Perret. Je vous cite une légende de Jacques Perret, parce que dans ce livre, les très belles photos en noir et blanc qui sont gravées en héliogravure, vous savez, dans ce livre, les photos en question sont commentées par Jacques Perret. Voilà ce qu'il nous donne pour une des photos. On n'en parlait pas. Mais l'automne existait déjà au grand siècle, et la mélancolie aussi, probablement. Déplacée en Île-de-France pour raison d'État, la mythologie s'est montrée enchantée du climat et la brume arrangeait très bien ses affaires. L'Olympe, au demeurant, fut prise en main par la cour, il y gagna beaucoup. Les dieux nus et les reins graves aberraient de compagnie dans l'ordre classique et Diane, devenue dame de qualité, se confessait au père Lachaise. Dans le parc solitaire et glacé, deux ombres tout à l'heure ont passé, tandis que la nymphe, abusée par la brume, s'émeut en croyant voir le Corbusier percé sous mansard. Ah oui, c'est écrit, c'est ciselé, c'est du Perret, que voulez-vous? Alors, on a le droit, comme mon ami Adrien Goetz, et je partage d'ailleurs globalement son avis, de préférer encore à cette petite prose très ciselée d'un Jacques Perret, la grande prose à la serpe de Monsieur Nimier. Voilà ce que ça donne dans l'introduction merveilleuse à cet ouvrage, qui encore une fois s'appelle Versailles que j'aime. Je sens qu'il va y avoir des gens chez les bouquinistes cet après-midi. Le palais de l'ogre s'étend sur 800 hectares. Avec un os, Cuvier reconstituait un univers disparu. Ici, il nous reste une coquille désertée par ses habitants, grande salle déguisée de marbre et d'or, ambassadeur occidental dont le voyage a duré 3 siècles et qui nous apporte ses présents, ambassadeur qui ne s'agenouille pas, qui ne se fait pas à nos mœurs, nous juge de petites conditions, se tait, respire, écoute. Cette personnification me paraît incroyable. Tous les poètes, un jour ou l'autre, auront été inspirés par Versailles, et c'est d'autant plus extraordinaire que très souvent, c'est la nature, que ce soit la nature humaine, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, que ce soit bien entendu les grands paysages, c'est la nature qui inspire le plus élégiaque, le plus fortement sensuel dans la poésie. Eh bien non, Versailles est une pure création de la culture et il n'en a pas moins inspiré La Fontaine, Perrault, Montesquieu et Casanova, et Chénier, bien entendu, ai-je besoin de vous le dire, et Chateaubriand, et Musset, et Barbey d'Orvilliers, Michelet, et d'autres. J'ai mis Michelet dans les poètes, vous l'aurez remarqué. Banville, bien sûr, Théodore de Banville, le dernier des romantiques. « Mais voici qu'au bout d'une allée de Charmilles, » écrit Banville, « mais voici qu'au bout d'une allée de Charmilles, vert corridor, il voit doré jusqu'à la nuque un fantôme ruisselant d'or, coiffé d'un spectre de perruque. » Il y a les trois marches de marbre rose d'Alfred de Musset également, vous savez, archi célèbre. Alors, ce qui est amusant, c'est que tous les spécialistes de Versailles en conviennent. Aujourd'hui, on a beau chercher dans tous les recoins du parc, à n'importe quel endroit, ces trois marches de marbre rose n'existent que dans l'esprit du poète et n'existent que pour la beauté de la rime. Le poète se montre d'ailleurs assez sévère envers ces jardins à la française dont l'esprit et dont le goût avaient passé au temps romantique. Je le cite. Je ne crois pas que sur la terre, il soit un lieu d'arbres plantés plus célébré, plus visité, plus décrit, plus lu, plus chanté que l'ennuyeux parc de Versailles. Ah oui, tout le monde n'est pas d'accord. D'ailleurs, Théophile Gautier va plus loin, lui. Versailles, tu n'es plus qu'un spectre de cité, écrit-il. Comme Venise au fond de son Adriatique, tu traînes lentement ton corps paralytique, chancelant sous le poids de ton manteau sculpté. Eh oui, que voulez-vous ? Comme je l'écrivais dans le dictionnaire amoureux de Versailles autrefois, aux yeux des romantiques comme à ceux de leurs continuateurs, Versailles est demeuré figé dans une gangue de splendeur et d'apparat. Et il faudra bien longtemps, il faudra tout l'éclectisme et toute l'imagination de la Belle Époque pour renouer avec Versailles et pour que la littérature française retrouve dans ce château, dans ses jardins, retrouve dans ses décors, dans ses créations du grand siècle, matière à inspiration. Et l'inspiration, elle est immense lorsqu'on parle du grand, lorsqu'on parle du sublime Albert Samin. Grand air, urbanité des façons anciennes, eau cérémoniale, révérence sans fin, Créqui, Fronsac, beau nom chatoyant de satin, main ducale dans les vieilles valenciennes, main royale sur les épinettes, antillaine des évêques devant Monseigneur le Dauphin, geste de menuet et cœur de biscuit fin, et ces grâces que l'on disait autrichiennes. Albert Samin aimait Versailles d'un amour incandescent et qu'il arrive à nous transmettre. Il n'avait pas pour les minauderies du grand siècle et du siècle des Lumières le mépris, le dédain d'un certain nombre de ses contemporains. Je vous laisse avec son raffinement. Ô vision, panier, poudres et mouches, et puis, léger comme un parfum, joli comme un sourire, c'est cette air vieille France ici que tout respire, et toujours cette odeur pénétrante des buis. L'archer de Renaud Capuçon court sur nos propres nerfs dans cette interprétation de la méditation de Thaïs, de Jules Massenet bien sûr. La philharmonie de chambre allemande de Brême était sous la direction de Daniel Harding.
Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Alors les poètes, c'est bien beau, mais les romanciers, me direz-vous. Eh bien, il y a énormément de romanciers qui ont situé des scènes à Versailles, qui se sont inspirés de Versailles, qui ont trouvé dans ce château, dans ces jardins, qui ont trouvé dans où il faut bien le dire aussi, des lieux qui avaient périclité, qui étaient devenus l'ombre d'eux-mêmes, un cadre à leurs intrigues et à leurs histoires. Bien sûr, un homme comme Flaubert va éviter soigneusement Versailles. Incroyable, mais vrai, on ne trouve dans toute l'œuvre de Flaubert aucune mention de Versailles. Bon, ça c'est pour l'exception, mais c'est une exception qui, comme souvent, confirme la règle. Et la règle, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup raconté Versailles. Il y a des auteurs, évidemment, un petit peu moins célèbres, qui ont beaucoup compté pour Versailles. Je pense à Léon Hénique, notamment, qui situe dans Versailles, au milieu de la magistrature versaillaise, l'action d'un très grand roman naturaliste qui, à l'époque, a été un immense succès, L'accident de Monsieur Hébert. En 1902, Paul et Victor Marguerite vont faire naître une grande idylle entre Henri Sicard, architecte imaginaire du domaine, mais qui empruntait beaucoup de traits au véritable architecte de Versailles, et leur jeune héroïne versaillaise, Rose Duvernay. Je le cite, tiens. « Inconsciemment, leurs pas les avaient menés jusqu'à cet endroit du tapis vert où l'autre jour, après la visite du château, ils s'étaient séparés. De cette minute et de cet endroit, la vie repartait pour la longue étape définitive et la route s'enfonçait au loin, tout droit, dans le soleil, comme cette perspective de gloire et de clarté qu'alignait devant eux la fuite du tapis vert et du grand canal, une trouée de lumière vers les champs de France. » Et puis, il faudrait citer Eugène de Voguet, bien sûr, en 1910, qui va situer toute une grande partie de son roman, tout le cœur de son roman, qui s'appelle « Les morts nous parlent ». Il va situer l'action à Versailles, notamment pendant une élection présidentielle, ce qui nous donne le double avantage d'entrer dans les coulisses de la vie de la Troisième République et de voir comment se passait une élection présidentielle. Et puis, il faudrait citer Roger Martin Dugard et Paul Claudel, et bien sûr Monterland, et Karl Marx aussi, accessoirement, et John Steinbeck. Tous ces gens-là ont écrit sur et dans Versailles, d'une certaine manière. Toutes les grandes plumes ont été amenées à broder un jour ou l'autre sur l'incontournable trame versaillaise, ai-je écrit quelque part, et ce faisant, à chercher un moyen de trancher sur l'énorme masse existante. Elles ont convoqué dans cette quête éperdue d'un renouvellement illusoire tous les ressorts de l'âme et des sens. » Et bien souvent, on n'y arrive pas d'une certaine manière. C'est ce que dit d'ailleurs, c'est ce que dit Adrien Goetz dans son ouvrage consacré à la littérature versaillaise et qui s'appelle « Versailles, le château-livre ». Versailles donne envie d'écrire, dit-il. Même Louis XIV, dans son vaste parc, n'a pu résister et s'est transformé en écrivain puisqu'il a laissé à la postérité un petit guide très soigneusement composé « Manière de montrer les jardins de Versailles ». Si Versailles appartient à l'histoire de la littérature, c'est parce que sa naissance ressemble à celle d'un texte. Son panorama renvoie n'importe quel auteur au mystère de la page blanche devenue ouvrage, au papier fait littérature, au marécage transformé en architecture, à cette question métaphysique. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Versailles défie la nature, le néant et le vide. Et je me disais, en préparant cette émission, qui vais-je bien pouvoir citer après Adrien Goetz, qui est le même souffle dans la phrase ? Eh bien, Proust, tout simplement, bien entendu. Marcel Proust, qui est venu passer ici au réservoir de longs séjours, notamment au moment de la mort de sa mère, et qui écrit, alors j'adore cette phrase, elle est très célèbre, mais je ne résiste pas au plaisir, « Je ne voudrais pas vous prononcer ici après tant d'autres. Versailles, grand nom rouillé et doux, royal cimetière de feuillage, de vastes eaux et de marbre, lieu véritablement aristocratique et démoralisant, où ne nous trouble même pas le remords que la vie de tant d'ouvriers n'y ait servi qu'à affiner et qu'à élargir moins les joies d'un autre temps que la mélancolie d'une autre. » Il faudrait aussi passer du côté du théâtre et pourquoi pas même du cinéma en évoquant tous ceux que Versailles a beaucoup inspirés, y compris dans une période très récente, et vous me voyez venir. Celui qui est un peu leur père à tous, bien entendu, en 1953, au moment de la grande loi de sauvegarde lancée par le secrétaire d'État aux Beaux-Arts de l'époque, André Cornu, celui qui va rendre Versailles populaire, faire passer Versailles dans toutes les salles obscures avant de le faire entrer par le petit écran dans tous les foyers, celui qui va rendre Versailles mondialement célèbre, c'est évidemment Sacha Guitry, qui a trouvé le moyen d'écrire la pochade la plus fausse historiquement et la plus vraie spirituellement concernant Versailles. Et d'ailleurs, à la toute fin du film, il fait dire à Bourvil, qui se promène dans les salles du château et qui est habillé, qui est déguisé en gardien de musée, il fait dire à Bourvil « Ah, les erreurs et les faute d'histoire, tout le monde s'en moque quand c'est le cœur qui les commet. » Georges Tsipine, à la tête de l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire, a interprété cette musique, cette bande originale du film de Sacha Guitry, « Si Versailles m'était compté », une bande originale signée Jean Francex.
Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
J'ai entre les mains, autant vous le dire, un très joli livre qui a été édité par Hervas et qui s'appelle « Mémoires de Versailles » de Robert Pajard. Robert Pajard est un de ces érudits, un de ces rats de bibliothèque, mais je le dis avec beaucoup de tendresse, qui ont passé leur vie à aller fouiner, chercher, retrouver dans le moindre paragraphe de la prose la plus obscure des citations sur Versailles. Aujourd'hui, c'est très facile. Vous vous mettez devant un moteur de recherche et puis vous tapez Versailles et puis vous voyez bien ce que ça donne. Mais à l'époque où Pajard l'a fait, croyez-moi, ça demandait énormément de suite dans les idées et beaucoup, beaucoup de bonne volonté. Puisque je parle d'Internet et des moteurs de recherche, de récentes analyses informatiques ont confirmé que Versailles était constamment associé à ce qu'il y avait de plus grand, de plus beau et de plus merveilleux dans la civilisation. Les mots les plus associés à Versailles sont classique, magnificence, ordre, pompe, prestige et somptueux. Vous avouerez que c'est quand même assez extraordinaire. Et il y a une vingtaine d'années maintenant, Gérard Gorcy, qui est un linguiste et qui est un des collaborateurs du Trésor de la langue française, vous savez, avait étudié les occurrences du terme Versailles dans plus de 3500 ouvrages dépouillés par l'Institut national de la langue française et qui sont disponibles sur la base Frantext. Il en concluait que Versailles, avec 4286 occurrences, était non pas, comme je l'ai dit avant-hier, le troisième, mais bien le deuxième lieu le plus cité après Paris dans la littérature. Moi, je parlais du public. Vous me direz, ça n'est pas peut-être tout à fait la même chose. Alors, on ne comprendrait pas que j'ai pu faire consacrer une émission à Versailles à travers la littérature et que je n'ai pas cité Les enfants du pays, bien entendu, et je vois quelques yeux qui me regardent durement depuis un moment, les deux frères Tarot, bien sûr, qui sont les grands écrivains versaillais et qui, pour ne vous citer que cet extrait parmi bien d'autres, en 1932, dans Les bien-aimés, écrivent ceci, donc les frères Jérôme et Jean Tarot. Il avait quitté le quartier qu'il habitait dans Versailles, ce vieux quartier Saint-Louis, si peu changé depuis deux siècles, si pareil à la vieille image telle qu'on la retrouve par morceaux dans les boutiques des antiquaires, mais d'où le luxe d'autrefois a totalement disparu et où une petite société, très attachée à ses titres nobiliaires, vit replier sur elle-même en bonne bourgeoisie provinciale cérémonieuse et dévote. Il franchit, sans les voir, les espaces déserts qui s'étendent devant le château et qui, eux, n'appartiennent plus qu'à l'histoire et aux ombres pour passer dans l'autre Versailles, le Versailles de la rive droite, car cette ville que ne traverse pas le moindre ruisseau se partage en deux rives, comme si l'avenue qui conduit au château la divisait à la manière d'un fleuve. À la manière d'un fleuve aussi, la royale avenue met une différence dans l'esprit et les mœurs des habitants qui vivent sur l'un et l'autre bord, et en particulier, ce qui intéressait Adrien dans les façons des jeunes filles. Rien qu'à les regarder, jamais il ne se fût trompé sur leur quartier d'origine. Rive droite, on tenait pour démodé et ridicule tout ce Rive droite, on tenait pour démodé et ridicule tout ce qui stagnait sur l'autre bord, et la manière de s'habiller, l'allure et le ton des propos qu'on avait de ce côté-là s'opposaient comme un défi à tout le « comme il faut » des attardés du quartier Saint-Louis. Ah, visiblement, les frères Tarot connaissaient bien Versailles. Ils le montrent à travers cette géographie psychologique des lieux. J'espère que vous aussi, après cette semaine spéciale que nous avons passée ici, en public, au Théâtre Montansier, vous aussi, vous connaissez mieux Versailles. Vous aussi, vous avez envie de venir visiter Versailles. Mais attention, je ne dis pas seulement le château, pas seulement les jardins, pas seulement les Trianon. La ville aussi, elle a tant, tant à vous offrir.
Vous écoutez Radio Classique.